Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'émission Le Savent-elles ? Je suis Maître Aïssa Touba, notaire à Conakry. Cette première émission aura pour thème le mariage et le choix de régime matrimonial. Alors, petite précision avant de commencer. Dans les différents thèmes qui seront abordés dans cette émission, il ne s'agira pas de traiter chaque thème dans les détails. Je vais me focaliser uniquement sur les aspects relatifs aux droits des femmes. L'objectif de l'émission étant d'informer les femmes et les jeunes filles sur leurs droits, de leur donner les voies et moyens de se protéger, de se défendre face à certaines situations. Pour en débattre, j'ai comme base légale les dispositions des articles 240 et suivants de la loi du 4 juillet 2019 portant Code civil de la République de Guinée, promulguée le 26 juillet 2019. Je vais aborder ce thème en énumérant, dans un premier temps, quelques conditions requises pour se marier. Ensuite, les formalités relatives à la célébration du mariage. Et enfin, le régime matrimonial. Alors, pour pouvoir contracter mariage, il existe des prérequis, parmi lesquels, notamment l'âge, le consentement. Vous devez être âgé d'au moins 18 ans, donc être majeur. Cependant, il existe des exceptions. Le président du tribunal du lieu de célébration du mariage peut autoriser le mariage des mineurs pour motifs graves. Malheureusement, le code ne définit pas ces motifs graves, donc c'est à la discrétion totale du président du tribunal qui, après avis du procureur, peut accorder par ordonnance une dispense d'âge conformément aux dispositions de l'article 241 du Code civil. Pour moi, un motif grave pourrait être, par exemple, un cas où la jeune fille est enceinte et que ses parents exigent que le père de l'enfant l'épouse. Mais attention, la jeune fille doit être consentante au mariage, car le mariage forcé est également interdit par la loi. Donc, on en vient au deuxième prérequis qui est le consentement. L'article 242 du Code civil dispose que le mariage exige le consentement des époux. Ce consentement doit être libre et non vicié. Alors cela voudrait dire que vous ne devez pas vous marier sous la contrainte ou la menace des parents ou de la famille. Vous devez être consentante. Cependant, lorsque vous êtes mineure et que vous avez décidé de votre plein gré de vous marier, la loi exige également le consentement de vos pères et mères ou de la personne qui exerce l'autorité parentale sur vous. En cas de désaccord entre les pères et mères, il faut l'autorisation du conseil de famille. Dans le cas où l'un des parents est décédé ou dans l'impossibilité de manifester sa volonté, le consentement de l'autre suffit. À mon avis, l'exigence du consentement parental pour le mariage des mineurs est une bonne chose, dans la mesure où ces mineurs ont besoin d'être accompagnés, conseillés, dans la prise de certaines décisions qui, lorsqu'elles ne sont pas bien mûries, pourraient avoir un impact négatif sur leur vie future. Notez que tout mariage célébré en violation des dispositions des articles 241 et 242 précédemment cités peut être attaqué en nullité par les époux eux-mêmes ou par toute personne qui y a intérêt ou par le ministère public. Par exemple, une association de défense des droits des mineurs pourrait demander l'annulation d'un tel mariage. Une fois ces conditions remplies, viennent les formalités relatives à la célébration du mariage. Parmi ces formalités, la publication par l'officier de l'état civil des bans du mariage, c'est-à-dire les avis qu'il affiche à la porte de la mairie 10 jours au moins avant la date prévue de la célébration du mariage. Préalablement à cette publication, l'officier de l'état civil doit recueillir un certain nombre de documents, dont l'extrait d'acte de naissance, le certificat de résidence, le certificat nuptial, etc. Mais il y a une formalité très importante et même essentielle qui a été introduite par la loi du 4 juillet 2019 portant Code civil de la République de Guinée en son article 250. Il s'agit de l'audition commune des époux sur le régime matrimonial ou le cas échéant la production de l'acte notarié portant contrat de mariage. Cela veut dire que l'officier de l'état civil doit entretenir le couple sur le régime matrimonial qu'il a choisi ou lui demande également une copie du contrat de mariage. Cette formalité n'était pas prévue dans l'ancien code civil. Ce qui se passait, c'était au moment de la célébration du mariage que l'officier de l'état civil demandait aux futurs époux le régime matrimonial qu'ils ont choisi et il cochait simplement la case correspondante. Aujourd'hui, il doit demander le régime matrimonial et même le contrat de mariage le cas échéant, avant la célébration du mariage. Et il doit réitérer cette demande au moment de la célébration du mariage. Le Code civil guinéen prévoit deux régimes matrimoniaux, le régime de la communauté des biens et le régime de la séparation des biens, prévu par les articles 223 et suivants. Dans le régime de la communauté des biens, tous les biens, meubles ou immeubles, acquis ensemble ou séparément pendant le mariage, font partie de la communauté, c'est-à-dire qu'ils appartiennent en commun au couple. Sont exclus de la communauté les biens dont les époux avaient la propriété avant le mariage ou qu'ils acquièrent pendant le mariage par succession, donation ou legs. Cette liste n'est pas exhaustive. Pour plus de précisions, je vous invite à lire l'article 624 du Code civil. Dans le régime de la séparation des biens, chacun des époux conserve l'administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels. Je précise que lorsque le couple n'a choisi aucun régime, c'est celui de la séparation des biens qui s'applique. Donc, mesdames, avant la célébration du mariage, il est très important de choisir votre régime matrimonial et surtout d'établir un contrat de mariage qui va venir encadrer ce régime et fixer les contours de votre relation patrimoniale avec monsieur, ce qui va aussi vous protéger pendant le mariage en cas de divorce, mais également en cas de décès de votre époux. Vous avez la possibilité d'inclure toutes les clauses que vous souhaitez dans le contrat de mariage, tant que ces clauses ne sont pas contraires à la loi, aux bonnes mœurs. À supposer que vous ayez choisi le régime de la séparation des biens, vous pouvez intégrer dans le contrat une clause de mise en commun de certains biens, notamment du logement familial, ou qu'en cas de décès d'un époux, l'autre devient propriétaire du logement familial ou de tout autre bien mobilier ou immobilier, ce qui va vous protéger, vous et vos enfants. J'insiste beaucoup sur la protection du logement familial parce que le constat est que dans certaines familles, dès que monsieur décède, sa famille s'accapare de tous ses biens et expulse sa femme et ses enfants de la résidence familiale. On sait aussi que la vie de certaines femmes est tributaire de l'humeur de monsieur, c'est-à-dire que dès que monsieur se fâche ou en cas de conflit au sein du couple, il demande à la femme de quitter la maison. Certains hommes vont jusqu'à jeter les affaires de la femme dehors. Donc, si elle n'a pas de famille pour l'accueillir, du jour au lendemain, elle se retrouve dans la rue avec ses enfants. Mais tout cela est favorisé aussi par l'ignorance de leurs droits par les femmes. Si vous avez choisi le régime de la communauté des biens, vous avez également la possibilité dans le contrat d'exclure certains biens de la communauté, notamment, là encore, le logement familial. Ceci pour protéger votre famille contre d'éventuels créanciers d'un des époux, pour que le logement familial ne puisse pas être saisi par les créanciers. Mais sachez, mesdames, que quel que soit le régime matrimonial choisi, le logement familial est protégé par la loi, même s'il appartient à votre époux. En effet, l'article 294 dispose que les biens immobiliers appartenant en commun aux époux, les habitations appartenant à l'un d'eux et effectivement occupées par la famille dont l'aliénation causerait à celle-ci un préjudice matériel certain ne peuvent être ni vendus, ni hypothéqués, ni donnés sans le consentement du conjoint. Celui des époux qui n'a pas donné son consentement peut en demander l'annulation. Le législateur guinéen a d'ailleurs étendu cette protection aux meubles, toujours à l'article 294 qui dispose que les époux ne peuvent sans l'autre disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille, ni des meubles meublants dont celui-ci est garni. Il arrive également que certains hommes refusent de subvenir aux besoins de la famille à cause d'un conflit avec madame. Ils refusent de payer la dépense, la scolarité des enfants. Ils abandonnent tout simplement leur famille. Sachez que lorsque votre époux se comporte de la sorte, vous avez la possibilité de le contraindre à remplir son obligation de participer aux charges du ménage. Le juge peut vous autoriser à saisir ou toucher dans la proportion de vos besoins, son salaire ou ses revenus conformément aux dispositions de l'article 293 du Code civil. Vous avez même la possibilité de prévoir dans votre contrat de mariage la contribution de chacun des époux aux charges du ménage. Et oui, mesdames, la loi vous protège, alors servez-vous-en. même s'il reste encore beaucoup de choses à améliorer par le législateur pour renforcer cette protection. Je tiens à faire un clin d'œil à toutes ces associations qui luttent pour les droits des femmes, qui paient les frais d'avocats et tout, parce que pour pouvoir rester en justice en vue d'obtenir réparation, il faut des moyens financiers. Alors merci à ces associations. C'est tout pour aujourd'hui, mes valeureuses dames. Dans la prochaine émission, nous parlerons du mariage et du choix entre monogamie et polygamie. En attendant de vous retrouver, je vous fais de gros câlins d'où que vous m'écoutiez.